Je vais maintenant vous présenter donc notre conférencière de ce soir. Isabelle Sommier est politiste. Elle est maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 et directrice du Centre de recherche politique de la Sorbonne. Concernant son parcours, en 88, elle a un DEA de sociologie politique à l'Université Paris 1. 90, un DEA de sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales et fait l'École normale supérieure. De janvier 90 à octobre 92, est chargée de travaux dirigés à Paris 1. De 92 à 94, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Paris 1. Et depuis 94, maître de conférences à l'Université Paris 1. Elle participe à différents groupes de recherche sur la violence et sur l'Italie contemporaine. Ses spécialités: elle est spécialiste de la violence politique. Ses travaux portent sur les phénomènes de criminalité organisée et de réseaux mafieux au niveau mondial. Elle travaille actuellement sur les phénomènes de contestation de la mondialisation. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales et a publié plusieurs ouvrages, dont « La violence politique et son deuil », »,« L'après 68 en France et en Italie », aux presses universitaires de Rennes en 1998, « Les mafias » chez Montchrétien en 1998, « Le terrorisme » chez Flammarion dans la collection Dominos en 2000 et « Les nouveaux mouvements contestataires à l'heure de la mondialisation » chez Flammarion, collection Dominos 2001, et « La France rebelle » en codirection avec Xavier Crétier chez Michelon en 2002. Donc Isabelle Sommier, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public pour 20 minutes. Merci.
Je vous remercie. Tout d'abord, bonsoir. Alors c'est vrai que c'est une banalité que de dire que le crime organisé se moque des frontières et que même au contraire, il exploite au mieux leur ouverture. Organisation tournée vers la maximisation de ses avantages, tout groupe criminel profite des ressources qui sont offertes par les différents processus de globalisation. La multiplication des échanges, l'accélération des flux de circulation des personnes et des biens, la révolution en matière de transport et de communication, etc. Sa faculté d'adaptation lui donne une supériorité certaine face à une lutte anti-criminalité qui, elle, reste engoncée dans ses frontières nationales, le plus souvent, et dans la lourdeur des procédures. Cette souplesse facilite par ailleurs ses activités, en particulier évidemment les trafics, et sa capacité à tisser des liens transnationaux avec ses homologues. Alors pour autant, si ces relations entre les groupes criminels existent bel et bien, évidemment, si elles se ramifient au fur et à mesure de l'accélération de la mondialisation, il serait sans doute faux de penser que ces groupes criminels constituent une sorte d'international du crime. Cette hypothèse d'un gouvernement du crime, d'une conspiration avec des réunions au sommet pour se partager le monde, existe depuis qu'on s'intéresse à la question. Elle a d'abord été avancée par des journalistes américains en particulier, mais aussi plus récemment par le département d'État américain à l'automne 1994. D'après le département américain, donc, une mafia internationale prendrait forme, aurait pris forme lors de plusieurs réunions au sommet, des réunions secrètes, mais pour autant, le département d'État donnait des lieux et des dates précis. Varsovie en 91, une deuxième réunion à Prague en 92, une troisième à Berlin en 93. Cette thèse, sans doute, exagère-t-elle la stabilité des alliances entre les groupes criminels, car leurs ententes ne durent que dès lors et que pour autant qu'elles servent un intérêt précis. Si le crime se globalise, il faut l'entendre d'une façon, je pense, moins spectaculaire, mais pas moins inquiétante. Il faut l'entendre de deux manières. D'une part, l'extension de la sphère criminelle, avec la multiplication des occasions et des opportunités de trafic. La mondialisation, au sens le plus classique du terme, joue en sa faveur en levant les obstacles d'espace et les obstacles de temps, donc en favorisant les ententes entre les groupes criminels. Mais je le répète, des ententes qui sont fonctionnelles, pour l'opération, le montage, l'opération, la bonne conduite, si l'on peut dire, d'une affaire, des ententes qui sont donc faites d'alliances, mais aussi toujours de concurrence. Deuxième processus, c'est la constitution de puissances financières criminelles, qui, elle, renvoie à la globalisation au sens anglo-saxon du terme, cette globalisation financière économique qui se développe, s'accélère à partir des années 80. Les multinationales du crime, reposant sur l'argent sale, ont diversifié leurs activités. Et là, la menace, bon, elle est évidemment de l'ordre de la sécurité, mais la menace essentielle, je dirais, dans ce processus-là particulier, provient peut-être d'abord de la perméabilité qu'elle induit entre les deux économies, entre l'économie légale et l'économie illégale. Cette globalisation du crime organisé est d'autant plus déstabilisante, à partir donc des années 90, qu'elle se développe dans un contexte qui est un contexte de fragilisation considérable des États. Alors, voyons d'abord l'extension de la sphère criminelle et ce que j'appellerais la grande transformation que l'on peut observer chez les groupes mafieux dans les années 70-80. Alors d'abord, qu'entend-on par groupe mafieux, puisque c'est l'objet particulier de cette conférence ? Le groupe mafieux, ou disons la mafia, relève de la catégorie générale de la criminalité organisée. Elle est souvent considérée comme le type supérieur de cette criminalité organisée, hein, son aristocratie, pourrait-on dire. Donc, elle possède des spécificités qui la distinguent des groupes criminels ordinaires. En tant que groupe criminel, eh bien, elle partage avec tous les groupes criminels, si je puis dire, une organisation qui est hiérarchisée, qui est permanente, c'est-à-dire qui survit à la mort de son chef, par exemple. Deuxième caractéristique, elle recourt bien évidemment à la violence et à la corruption. Troisième caractéristique, propre à toutes les organisations criminelles, hein, elle se spécialise dans les activités illégales à dimension transnationale. C'est ce qui en fait, donc, ces trois caractéristiques, un groupe criminel. Mais en plus de ces caractéristiques, je vous le disais, elle a plusieurs spécificités, j'en distinguerai trois, hein, qui donc la distinguent des groupes ordinaires. D'une part, elle possède les caractéristiques d'une société secrète, notamment sa fermeture, ses rites d'initiation imposés à l'impétrant, des codes de comportement particuliers, et bien souvent, elle est sous-tendue, son histoire est sous-tendue en quelque sorte par un mythe des origines qui, souvent évidemment, glorifie le groupe. Deuxième caractéristique propre au groupe mafieux, le groupe mafieux bénéficie d'un enracinement socio-culturel auprès d'une population. Et cela va lui conférer un pouvoir et une fonction de contrôle social sur la population d'un territoire donné. Troisième et dernière spécificité, le groupe mafieux a une dimension entrepreneuriale par sa capacité à participer à la sphère illégale, bien entendu, hein, mais aussi à la sphère économique légale. Et cela lui donne une grande adaptabilité aux circonstances. En conséquence, j'ai proposé cette définition, hein, relevant de la catégorie de la criminalité organisée, l'organisation mafieuse est une société secrète, criminelle, à capacité de reproduction, qui est caractérisée par sa fermeture, son organisation hiérarchique, son rapport étroit à une population qui est spécialisée dans la violence et la corruption et qui se consacre à une pluralité d'entreprises, des entreprises légales, des entreprises illégales à dimension transnationale. Alors cette définition s'applique évidemment à l'archétype de la mafia, c'est-à-dire la Cosa Nostra sicilienne. On estimait au milieu des années 90 que la Cosa Nostra regroupait 150 familles environ et entre 5 000 et 15 000 membres. Elle s'applique également aux autres groupes italiens que sont la Camorra, qui se situe, enfin, dont l'origine se trouve en Campanie, qui regrouperait environ une centaine de familles et 75 000 membres en 96. Bon, j'attire évidemment votre attention sur le fait que, s'agissant du crime organisé, eh bien, c'est, tous ces, les chiffres que je vais vous indiquer sont par définition à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. C'est simplement pour vous donner une idée. Et puis, troisième groupe italien qui correspond à cette définition de la mafia, c'est l'Andrangheta. L'Andrangheta qui se trouve, elle, dans les Pouilles, qui regrouperait environ 159 familles, 5600 membres à peu près. Alors, à côté de ces trois groupes italiens, vous avez également la Cosa Nostra italo-américaine, qu'elle est en phase de, nette de déclin, hein, avec traditionnellement 25 familles. Vous avez également les triades chinoises. Les triades chinoises compteraient environ 160 000 membres, toujours au milieu des années 90. Et puis, la mafia japonaise, que l'on appelle, pour désigner les organisations, les Boryokudan, et pour désigner les membres, les mafieux, les Yakuza, qui regrouperaient 60 000 membres, d'après la police japonaise. Alors, à cet ensemble, je vais y inclure, mais avec beaucoup de réserves, la dite mafia russe, ou plutôt l'édite mafia russe, qui désigne en réalité les groupes criminels de l'ex-Union soviétique, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors, avec ce modèle, en quelque sorte, hein, d'une criminalité organisée dont le haut de la pyramide, si je puis dire, hein, serait constitué par des groupes mafieux avec cet ancrage social, et cette organisation très rigide, eh bien, on peut dire que, même si évidemment cela peut choquer, hein, et j'en suis bien consciente, que les groupes mafieux offraient une sorte de régulation du crime, une sorte d'équilibre. Et cet équilibre, il va se rompre au cours des années 70 avec les profits énormes retirés du trafic de drogue et avec l'évolution des groupes strictement mafieux que je viens de vous présenter. Si on s'interroge sur le substrat finalement de ces groupes mafieux, eh bien, on peut dire que dès leur origine historique, eh bien, les groupes mafieux sont des acteurs qui se spécialisent dans l'offre de protection et la fourniture de garanties aux activités économiques et aux personnes privées. La spécificité étant, bien entendu, qu'elle protège les biens et les personnes, moyennant rémunération, c'est l'extorsion, le racket, hein, elle protège contre une violence dont elles sont elles-mêmes les instigatrices. Je veux dire par là qu'à la différence de tout autre groupe de criminalité organisée, la violence pour les groupes mafieux ne représente pas au premier chef un moyen dans l'accomplissement d'un crime. La violence ne vise pas tant à soutirer de l'argent, parce que l'argent retiré par le racket, l'extorsion, hein, eh bien, ce sont des sommes tout à fait dérisoires par rapport aux profits qui sont retirés des autres activités, en particulier du trafic de drogue. Donc, cette protection extorquée, hein, qu'imposent les mafias sur un territoire donné, hein, ce n'est pas pour soutirer de l'argent, c'est pour affirmer un pouvoir et pour exercer un contrôle social. Cela, c'est la racine, le substrat de ces groupes mafieux. Mais il connaît un fléchissement notable au cours des années 70. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut dire que on peut lire l'histoire des groupes mafieux comme celle du déclin de cette fonction de contrôle social, de médiation sociale aussi, qu'on appelle le power syndicate, au profit de l'affirmation croissante des logiques de marché,
C'est ce qu'on appelle l'Enterprise Syndicate. Une autre image qui sera peut-être plus parlante pour traduire cette évolution qui commence dans les années 70, eh bien, je vais la reprendre à une journaliste, Marcel Padovani, qui s'est beaucoup intéressée à ces questions et qui a fait des entretiens avec le juge italien Falcone. Cette évolution, ça serait le passage de ce qu'elle appelle le mafieux parrain au mafieux patron. Ce qui distingue en effet la mafia traditionnelle de la mafia entrepreneuriale actuelle, c'est donc ce glissement des fonctions hein, où on délaisse donc ces fonctions de contrôle social sur une population au profit de la recherche première, voire exclusive, de l'accumulation de capital. C'est donc un processus qui se marque par une certaine forme de gangstérisation des groupes mafieux, de rapprochement avec les groupes criminels ordinaires, si je puis dire. Alors, pourquoi et comment ce passage s'est-il accompli ? Eh bien, il s'est accompli au cours des années 70 grâce et à cause de l'argent de la drogue qu'il faut réinvestir et grâce à la participation croissante au marché public et à la sphère économique légale. Cette transformation des groupes mafieux, qui va commencer d'abord en Italie, eh bien, va se traduire par des guerres internes au milieu, particulièrement sanglantes, et par l'affirmation sans retenue des logiques prédatrices de ces groupes. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette évolution va entraîner une mutation morphologique des organisations mafieuses. Qu'est-ce que l'on remarque ? Eh bien, on remarque que, au fur et à mesure qu'avancent les années 70 et plus encore dans les années 80, l'origine sociale des mafieux est toujours plus hétéroclite. Et de plus en plus, on voit des catégories qui auparavant n'y étaient pas, des professions libérales, des fonctionnaires. On remarque également la rapidité croissante avec laquelle les mafieux s'élèvent dans la hiérarchie, puisque je vous le disais, ce sont des organisations extrêmement hiérarchisées. Et donc, on a des individus qui accèdent au rang de capo de Chine, de sous-chef, voire de chef, de plus en plus jeunes. Ah, je crois que petit problème de son. Ainsi que le disait un sociologue, par ailleurs très investi en Italie dans la lutte anti-mafia, Pino Arlacchi. Loin d'engendrer une extension progressive de la sphère des valeurs et des comportements de type rationnel capitaliste, l'activité d'entrepreneur a pour effet, chez les mafiosi, d'accroître les dimensions de la sphère des attitudes archaïques et prédatrices qui sont présentes dans le curriculum de ces personnages. Alors, cette grande transformation a pour conséquence, en Italie, une explosion de violence. Par exemple, le doublement des morts entre 1970 et 1980, avec un point culminant de ces guerres de mafia entre 81 et 83. Ces violences sont dirigées contre les représentants de l'État et contre les clans rivaux, hein, sans aucune retenue, et comme vous le savez sans doute, se soldent par la victoire des Corleone. Au Japon, cette évolution se repère également, mais sur une période un peu différée, hein, puisque c'est plus entre 85 et 93 que l'on va assister à cette mutation et à ces grandes guerres de succession, si je puis dire, chez les groupes mafieux, en Russie depuis 91. Alors, évidemment, l'expansionnisme, il est inhérent au monde criminel, mais l'ouverture de nouveaux marchés ou la croissance formidable de ces nouveaux marchés illégaux, hein, évidemment, ébranle les rapports de force existants, donc déchaîne des guerres concurrentielles, des guerres de succession, donc élève de plus en plus les niveaux de violence. Et cette instabilité hein, et le délaissement hein, des fonctions de contrôle social tendent à rapprocher les groupes mafieux des groupes criminels ordinaire et donc à rompre cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, hein, dans une sphère donnée, hein, cet équilibre des activités criminelles sous le chapeau des groupes mafieux. C'est d'autant plus vrai que le trafic de stupéfiants est international par nature et qu'il va contraindre les organisations à rationaliser leurs activités pour acquérir les caractéristiques de multinationales. Le commerce international de stupéfiants constitue le nerf de la guerre, si je puis dire, sans doute entre 300 et 500 milliards de dollars au milieu des années 90. C'est l'argent de la drogue qui fournit la manne financière nécessaire à l'investissement massif dans l'économie légale. Enfin, c'est le trafic de stupéfiants qui a été la première occasion, et l'occasion la plus importante à ce jour, de rencontre entre organisations mafieuses pour, je dirais, planifier et se distribuer les rôles. La réunion, la première réunion qui est connue, en tout cas, entre deux groupes mafieux, c'est une réunion qui se tient à Palerme, en octobre 57, c'est le début vraiment, du trafic de stupéfiants, qui réunit la Cosa Nostra italienne, enfin sicilienne, et la mafia italo-américaine. Et c'est à partir de cette date que la Cosa Nostra italienne va avoir la suprématie dans le trafic de l'héroïne. Cette suprématie va se renforcer au début des années 70 avec l'élimination des concurrents corses et des concurrents marseillais avec l'affaire de la French Connection. Et puis ensuite, progressivement, avec l'accord que la Cosa Nostra va passer avec d'autres groupes criminels, en particulier les babas, ce qu'on appelle les babas turcs, enfin d'Istanbul, enfin les groupes criminels turcs, qui fournissent la morphine base, et puis avec les cartels colombiens qui, eux, se chargeaient du transport et de la livraison de la cocaïne. Alors cette suprématie très très longue hein, de la Cosa Nostra sicilienne dans le trafic de l'héroïne, elle est aujourd'hui très sérieusement concurrencée par les triades et par les Russes. Donc c'est par le biais du trafic de stupéfiants que les liens entre organisations mafieuses et organisations criminelles tout court, mais aussi les petites bandes de sous-traitants, les petites mains, je dirais, du trafic de drogue, hein, les Nigérians, etc., eh bien, c'est par ce biais hein, que tous ces liens se ramifient. C'est pourquoi l'internationalisation des activités criminelles oblige à une division du travail qui est croissante et qui est elle-même productrice de rencontres et donc de collaborations entre organisations criminelles. Certains trafics, certaines activités criminelles sont communs à tous les groupes. Le vol, le racket, les prêts usuraires, le trafic de drogue. D'autres activités illégales sont la spécialité de certains groupes. Pour donner quelques exemples, la Camorra est plutôt spécialisée dans la contrebande, tabac, le détournement des aides et des subventions, les drogues de synthèse pour les Russes. Côté des Yakuza, leurs activités sont des activités importantes dans les jeux clandestins, le chantage aux entreprises, qui est une spécificité nippone, hein, ce qu'on appelle par le biais des ce qu'on appelle les Sokeya, et la traite des femmes. Pour les triades chinoises, et leur spécialité, si je puis dire, ce sont les jeux clandestins, la prostitution et, de façon malheureusement l'actualité nous le montre régulièrement, dans l'immigration clandestine, les conditions d'esclavage. Cette évolution marque également donc de gangstérisation hein, et de mafia entrepreneuriale, marque également une interpénétration croissante entre l'économie légale et l'économie illégale par le biais du blanchiment, et, enfin notamment, et elle se marque également par une accentuation des phénomènes de corruption du personnel politico-administratif. Alors l'économie occulte ou souterraine recouvre deux types de marchés. Le marché parallèle, alors le marché parallèle, ce sont les biens licites mais qui sont échangés de façon illégale, et le marché proprement illégal, qui sont les biens, l'échange de biens illicites. Alors le FMI considérait en 1996 que le chiffre d'affaires des activités mafieuses serait compris entre 700 et 1000 milliards de dollars en 1996. Pour donner un ordre d'idée, ça équivalait à 3 fois le budget de l'État. Sans doute que le trafic de stupéfiants représente la moitié de ces sommes. Alors une partie de ces revenus illégaux sont réinjectés dans l'économie légale de deux façons, par le blanchiment, estimé de l'ordre d'à peu près 1 milliard de dollars par jour, et l'investissement direct dans l'économie légale. Le blanchiment et l'investissement, et plus encore l'investissement direct dans l'économie légale, eh bien, ils ont été rendus nécessaires par la masse d'argent considérable qui a été accumulée avec le trafic de stupéfiants. C'est une masse tellement importante qu'elle ne pouvait pas être absorbée simplement sur le terrain illégal. Et puis, bien entendu, ce tournant vers l'économie légale a été facilité et facilité par un contexte général qui a été celui d'exaltation du profit et un contexte de déréglementation. Pour vous donner quelques exemples de cette insertion des groupes criminels dans l'économie légale, eh bien, je vais prendre l'exemple japonais. Alors, d'après la police japonaise, bien entendu, les yakuza, enfin, ou les boryokudan, enfin, les mafias japonaises, contrôlaient environ 21 000 entreprises, les trois quarts étant des boîtes de nuit et des saunas. De toute façon, c'est assez général, les secteurs les plus prisés, du moins dans un premier temps, pour cet investissement dans l'économie légale, quels que soient les continents, ce sont les transports, parce que ça facilite évidemment les trafics, le bâtiment et transports publics, l'immobilier, surtout avec le boom de la spéculation immobilière, et puis tout le secteur des loisirs, boîtes de nuit, etc. Alors, on considère que la puissance économique et financière des groupes mafieux japonais aurait eu une part importante de responsabilité dans la crise que le Japon connaît à partir de 1990 et dont on estime qu'elle a contribué à détruire à peu près 16% de la richesse nationale. D'ailleurs, c'est sur ce constat, pas seulement d'ailleurs, que le Japon a adopté une loi en 91, une loi anti-yakuza, puisqu'auparavant ils avaient un peu pignon sur rue. En dépit de cette loi et puis d'une autre loi contre le chantage, enfin contre les assemblées d'actionnaires qui exerçaient du chantage sur les entreprises, les Sokeya, c'est une spécialité nippone, eh bien, spécialiste Jean-Marie Bouissou considère qu'encore aujourd'hui, du fait de cet investissement des groupes mafieux dans l'économie légale, eh bien, l'argent prêté par les banques nippones à la criminalité organisée serait encore de l'ordre de 2000 milliards de francs, soit entre 9 et 10% du PIB. Alors l'infiltration de la scène politique s'est renforcée au cours donc des années 70 et 80 grâce à cet investissement mafieux dans l'économie légale. Par le biais de l'infiltration dans les administrations locales, marché immobilier, l'emprise sur les marchés publics, les adjudications, et par le biais également des détournements des aides et des subventions des États ou de l'Union européenne. Une sociologue italienne, Maria Luisa Cesoni, y voit également la conséquence du développement de la corruption dans les milieux politico-administratifs. Elle note qu'en Italie, ce rapprochement entre le milieu des affaires, le milieu politique et le milieu tout court, a été permis par un rapprochement sociologique entre la classe politique et les groupes mafieux, puisque en même temps que les mafieux devenaient entrepreneurs et par ce biais de la puissance économique réinvestissaient d'une certaine manière dans la puissance politique, les nouvelles élites politiques italiennes se sont recrutées de moins en moins parmi les professions libérales, mais de plus en plus parmi la petite bourgeoisie entrepreneuriale, les patrons de PME, donc les accointances étaient plus fortes. Alors, les exemples de scandales qui ont été provoqués par ce rapprochement des sphères, il y en a quelques-uns. Je citerai l'affaire énorme, Lockheed, était des pots de vin versés par l'entreprise, une entreprise aéronautique américaine en 77, qui a éclaboussé des élites économiques et politiques de deux pays, le Japon, où le Premier ministre a été inculpé, l'Italie, conduisant le président de la République Leone à la démission. Et puis ce scandale a entraîné l'adoption aux États-Unis d'une loi contre les pratiques de corruption étrangère qui, comme vous le savez, a été étendue au niveau international récemment. Et puis, plus proche de nous, qui déborde un peu les pays dont je parle plus particulièrement ici, c'est les scandales assez réguliers, il faut bien le dire, qui ont touché la Turquie, notamment en novembre 1999, avec lorsque le gouvernement du Premier ministre Mesut Yılmaz a été destitué pour abus de pouvoir lié au culte avec les milieux mafieux, ce qu'on appelle les babas. Ce phénomène donc d'interpénétration entre la sphère économique légale et illégale et les milieux politiques et les milieux criminels sont en développement et on a assisté à un cas inédit de main basse sur une partie de l'économie d'un pays avec la Russie. Les mafias russes ont profité amplement de la privatisation des entreprises. Alors, là, j'avais cité des chiffres et je demanderai, il faut redoubler de prudence. Ces chiffres viennent de la police russe, qui estimait que ces entreprises contrôlaient en 91, les groupes mafieux contrôlaient en 91 un tiers de l'économie et puis l'année suivante entre un tiers et la moitié. Au total, environ 50 000 entreprises et 400 banques auraient été à ce moment-là, d'après la police russe, sous contrôle mafieux. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les groupes criminels russes, certes, se sont enrichis, ça ne fait pas de doute, mais également, ils tentent eux aussi à investir directement la sphère politique en se présentant aux élections. Puisque par exemple, en octobre 1995, le ministère de l'Intérieur a alerté la commission électorale sur la présence de 87 candidats aux élections qui étaient sous enquête ou qui avaient déjà été incarcérés pour appartenance au crime organisé. Encore aux élections de décembre 1999, 20% des candidats aux élections disposer d'un casier judiciaire. Et un des chefs présumés d'un gang de Moscou se présentait d'ailleurs à ces élections législatives. Il semblerait qu'une évolution, enfin qu'un parallèle puisse être fait hein, avec la situation chinoise, hein, qui connaît à son tour un bond de la corruption à la faveur de l'ouverture économique. En tout état de cause, on remarque que la criminalisation politique et la criminalisation économique vont de pair à partir des années 80. Et j'en arrive à ce deuxième processus, voire plus précisément le lien entre la globalisation financière et les flux criminels. Depuis la fin du monde bipolaire, depuis la fin, l'effondrement du bloc de l'Est, eh bien une seconde étape de développement de la criminalité organisée s'est ouverte avec une gangrène plus nette des activités économiques, enfin des sphères économico-financières et politiques. Alors, déjà, il faut noter que dans l'étude de la mafia, une contribution importante vient des économistes. Et bien des économistes ont fait de l'entreprise mafieuse l'archétype de l'entreprise capitaliste. Car l'entreprise mafieuse pousse jusqu'à ses logiques extrêmes la prise de risque qui est au service de la maximisation du profit. Elle ne fait en quelque sorte que poursuivre jusqu'à ses extrêmes limites des méthodes sans scrupules en cours, quelquefois dans le milieu des affaires, pour triompher de la concurrence. Ces économistes rappellent d'ailleurs que les premiers capitalistes américains, qui étaient significativement appelés les barons pillards, utilisaient sans vergogne les activités illicites, la violence et la corruption. Signal pour les amateurs de cinéma qu'un film récent a montré cette face sombre hein, du rôle des gangs, d'ailleurs, dans l'émergence hein, du capitalisme aux États-Unis. Alors, la globalisation économique actuelle offre très certainement des opportunités inédites aux activités criminelles et des ressources considérables. Bon, au-delà de l'ouverture des frontières et des marchés, ce qu'il faut noter, c'est surtout l'impact très favorable pour les groupes mafieux des déréglementations hein, et du déclin des contrôles publics. En fait, je voudrais ici développer une hypothèse. Il me semble que le phénomène accéléré de globalisation que nous connaissons depuis les années 90, eh bien, est comparable à la première phase qui a donné naissance aux groupes mafieux, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle. Au cours de cette deuxième moitié du 19e siècle, hein, eh bien, on assiste à un processus qu'on appelle en sociologie de mobilisation sociale, c'est-à-dire le passage d'un mode de vie traditionnel à un mode de vie moderne, hein, qui va favoriser hein, le développement, l'affermissement plus exactement de ce qui sera ensuite appelé les groupes mafieux, en particulier en Italie. Et je pense que du point de vue des groupes mafieux, eh bien, cette période de transformation considérable que nous vivons, elle est aussi opportune, si je puis dire, que la précédente. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans les deux cas, eh bien, ce sont des phases de désorganisation et une période de changement social considérable et source d'incertitude laisse des espaces vides qui offrent autant de niches, hein, évidemment, aux organisations criminelles ou aux sociétés secrètes. Ce sont des phases de bouleversement des valeurs et des hiérarchies sociales qui permettent d'une certaine manière, qui offrent une chance unique à celui qui est assez audacieux hein, pour forcer l'entrée d'un monde qui lui est normalement fermé. Ce sont des phases de mutation et l'ampleur des bouleversements d'ordre économique, social, hein, laisse beaucoup au bord de la route, constituant ainsi un vivier à ces organisations criminelles. Par exemple, en Russie, depuis que le pays s'est engagé hein, dans l'économie de marché, hein, on a noté que la consommation et le trafic de drogue a explosé, plus précisément il a triplé, et le trafic augmente à peu près de 100% par an. Sur fond de ces bouleversements que nous vivons, hein, ces mutations économiques, eh bien, des trafics nouveaux se développent sur fond de détresse humaine et puis de déstabilisation des États. Alors, quels sont ces nouveaux trafics qui émergent ? Eh bien, ils sont particulièrement odieux. C'est le trafic d'organes des pays du Sud au profit des pays du Nord, souvent. L'enlèvement, le trafic d'enfants. Et puis, massivement, la traite des êtres humains. Et je vous le disais tout à l'heure que, de ce point de vue, les triades chinoises ont un rôle considérable, hein, puisqu'elles font payer très, très chèrement, et parfois de leur vie, hein, les Chinois, souvent de la région de Fujian, dans l'espoir d'aller en Occident, où ces personnes, si elles survivent au voyage, puisqu'il y a eu plusieurs affaires récemment, hein, eh bien, ces personnes vont ensuite travailler, nourrir les ateliers clandestins d'Occident. Autre trafic en hausse, c'est le trafic d'armes, hein, qui a trouvé évidemment un second souffle avec l'effondrement du bloc de l'Est, qui profite surtout à la 'Ndrangheta et à la mafia russe. Et les craintes sont très fortes hein, d'un trafic de matières nucléaires. Et par ailleurs, on observe le développement du détournement des aides au développement, à l'aide humanitaire, aide et subventions. Alors, le cas russe, là encore, malheureusement, permet d'illustrer cette hypothèse. Le pays a connu une explosion considérable de la criminalité. Et je pense que si ce qui a rendu possible cette explosion de la criminalité, c'est parce que la Russie a vécu en même temps, simultanément, deux révolutions. La première, c'est évidemment l'effondrement de l'Empire soviétique, avec le cortège hein, d'insécurité qui est consécutif. Cette insécurité favorise la demande en société privée de protection pour une raison simple. Hein, l'offre de sécurité a rencontré une demande de sécurité. Une demande de sécurité en raison de l'augmentation vertigineuse de la criminalité. Par exemple, à Moscou, on observe en 92 plus de 70% de crimes. Donc il y a une demande de sécurité que l'État ne peut pas satisfaire et une offre de protection qui est offerte par des spécialistes de la sécurité qui n'ont plus de travail et qui proviennent du KGB, hein, puisque les effectifs du KGB ont été réduits de 36 000 à 2 800 personnes, et de l'armée qui devait connaître un allègement annuel de 40 000 personnes. Dans ce contexte de demande de sécurité et d'offres de sécurité venant de spécialistes de la sécurité qui se retrouvent sans travail, eh bien, on a l'explosion hein, des groupes mafieux, hein, du racket, hein, puisqu'on estime que grande partie des entreprises acceptent de payer, peut-être pas le choix, de payer le racket hein, qui représente en général entre 10 et 30% de leur profit. Et puis, comme pour les hommes politiques, en quelque sorte, eh bien, un grand nombre de ces entreprises criminelles qui imposaient le racket, donc spécialisées dans l'extorsion, progressivement, un certain nombre d'entre elles se sont reconverties dans des entreprises légales de gardiennage. Autre reconversion que l'on observe et qui participe de cet effondrement, eh bien, c'est la reconversion que l'on observe chez les cerveaux, avec des affaires nombreuses d'arrestations de chimistes, d'étudiants en pharmacologie, qui se sont reconvertis parce qu'ils n'ont plus de travail dans la fabrication des drogues de synthèse. Diego Gambetta a ainsi comparé la Russie actuelle à la Sicile du XIXe siècle. Pour lui, le féodalisme et le communisme ont en commun le faible nombre d'individus qui jouissent du droit de propriété et de l'exercice de la violence. Donc leur effondrement se traduit par une même croissance des propriétaires et par une même peur provoquant une même demande de sécurité. C'était la première révolution que le pays connaît. Mais en même temps, il connaît l'autre révolution, qui est la révolution de la globalisation économique et financière, qui donne donc des opportunités nouvelles aux groupes criminels. L'exemple de ce maelstrom, si je puis dire, eh bien, a été donné en août 1999 avec l'affaire qui touche la banque de New York, où l'on a pu voir que 10 milliards de dollars avaient transité d'une société notoirement liée à un gang russe par la banque américaine, donc la banque of New York. Et ces 10 milliards de dollars correspond à 40% du budget russe. Et on soupçonnait qu'une partie de cette somme, douteuse si je puis dire, provenait des prêts du FMI et que cet argent était destiné au cartel de Cali et à certains groupes criminels israéliens. Alors, malgré la gangrène de l'économie et la contribution des groupes mafieux à la spéculation, avec les dangers que ça représente pour la stabilité économique mondiale, eh bien, la lutte anti-criminalité est difficile. Cette lutte entame la souveraineté des États, qui sont assez réticents par conséquent à l'engager. Elle se heurte également à l'imbrication entre l'économie occulte et l'économie légale. Et les conséquences que peut avoir sur le plan économique global ce dénouement entre les deux sphères. Elle se heurte également aux paradis fiscaux où passerait la moitié des flux de capitaux internationaux, c'est-à-dire entre 350 et 500 milliards de dollars de fonds illicites par an en 99. Contre 85 milliards seulement, si je puis dire, 10 ans auparavant. Alors, en dépit des discours de condamnation unanime de la part des États de ces places offshore, ces places offshore jouent un rôle fonctionnel tellement essentiel. Elles permettent de contourner les réglementations nationales, de s'affranchir des pesanteurs juridiques. Bref, elles ont un rôle tellement important pour les flux financiers qu'on peut craindre que ces places offshore ne soient pas véritablement combattues. Elles sont aux portes de l'Europe et des États-Unis, où elles servent par ailleurs à l'évasion fiscale, au blanchiment des capitaux, où elles mettent des sociétés écrans à disposition. Récemment, le GAFI, le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, a dressé la liste de 42 paradis fiscaux. C'était en mai 2000. Et puis un mois plus tard, il est allé plus loin puisqu'il a montré du doigt 15 pays qui étaient accusés de blanchiment d'argent sale. Alors, dans ces pays, on trouvait ceux habituellement cités, les Bahamas, les îles Caïmans, Panama, la République dominicaine, les îles Cook, etc. Et puis d'autres moins habituellement cités, comme le Liechtenstein, le Liban, la Russie, Israël, les Philippines et d'autres. C'est une liste de 15 pays accusés de blanchiment. Le GAFI avait établi une liste au préalable de 31 pays. Mais sous la pression d'États, et notamment d'États européens, eh bien, certains pays ont été retirés de la liste, comme Monaco ou comme les îles anglo-normandes. Le GAFI considère que devraient entrer dans cette liste donc des pays accusés de blanchiment d'argent, les pays qui n'identifient pas les porteurs de valises, pas ceux des années 60. Les pays qui ne rendent pas compte de transactions suspectes, qui ne s'interrogent pas justement sur l'origine de fonds considérables. Les pays qui n'incriminent pas pénalement les blanchisseurs et les pays qui ne coopèrent pas avec la communauté internationale. L'accélération de la mondialisation a généré une nouvelle recomposition de l'univers criminel et de l'univers mafieux. La première, j'en ai déjà parlé. On est actuellement, vraisemblablement, dans un changement, on assiste à un changement de rapport de force entre les organisations mafieuses. Les mafias historiques, les italiennes et l'italo-américaines, semblent en très nette perte de vitesse par rapport aux mafias ascendantes que sont principalement les triades chinoises et les groupes russes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que du fait de leurs conditions d'émergence, mais aussi du fait de leur base sociale, leur base sociale c'est d'abord les diasporas économiques ou politiques, ces nouvelles mafias, enfin qui ne sont pas nées récemment, mais ces mafias ascendantes, voilà, ça sera mieux, sont mieux adaptées au contexte de la mondialisation, parce qu'elles partagent les caractéristiques de cette mondialisation, la mobilité, les solidarités transnationales permises justement par les diasporas, l'adaptabilité, la souplesse. Donc on peut craindre une capacité de nuisance accrue puisqu'il touche désormais le système, le registre international du système politique comme du système économique. Les opportunités de développement qu'offre l'accélération de la mondialisation financière aux flux criminels est redoublée par les opportunités offertes par la fin du monde bipolaire, la fin de la guerre froide. On voit un mouvement d'expansion planétaire de l'économie de marché comparable à transformation que l'on observe à la charnière du 19e-20e siècle. Et cette évolution s'accompagne là aussi d'un retour, d'une accélération, enfin d'un grossissement de l'économie illicite et en particulier du trafic de stupéfiants. Un auteur, Guilhem Fabre, qui est sinologue, a pu montrer, a pu analyser le cas chinois actuel à la lumière du passé, pour montrer les facteurs d'accroissement du trafic et de la consommation de stupéfiants, qui, je le rappelle, constituent la ressource majeure des groupes criminels. Ces facteurs, c'est la diversification de l'offre, c'est la crise des valeurs qui est liée au choc des mutations, je le cite. C'est la multiplication des conflits de basse intensité. Et puis, il a bien montré également combien ces facteurs s'auto-entretiennent. Le développement des conflits de basse intensité, des guerres civiles, entraîne un besoin accru, un besoin financier accru pour les États pour combattre les rebelles. Ce qui entraîne très souvent, ce qui amène certains États à se tourner vers des groupes criminels et à participer ou en tout cas fermer les yeux devant les trafics. Donc il y a là un cercle qui n'est pas vertueux malheureusement et qui s'auto-entretient. Car si le dynamisme des groupes mafieux profite du désordre mondial, de la fragilisation des États et du chaos dans lequel un grand nombre d'États du Sud ont sombré, eh bien ce dynamisme des groupes mafieux participe aussi à la déliquescence du politique, en particulier sur le continent africain, particulièrement touché par la corruption, la criminalisation. L'Observatoire géopolitique des drogues a ainsi distingué des s'appellent les narco-démocraties et les narco-États. Les narco-démocraties, ce sont les États sous influence, sensibles au trafic de drogue, par exemple le Venezuela, la Colombie, la Thaïlande, mais aussi, il notait, l'Italie jusqu'en 1993. Les narco-États correspondent, eux, je les cite, aux États ou aux secteurs de l'appareil d'État qui profitent directement, pour une part importante, voire essentielle, des revenus du narcotrafic. C'est le cas du Pérou, du Maroc, de la Birmanie, du Nigeria, de la Roumanie, de la Somalie ou encore du Liban. Cette situation de déliquescence du politique auquel participe le développement mafieux peut déboucher sur ce qu'on appelle aussi les zones grises, qui sont des zones totalement de non-droit, livrées aux guerres et au trafic. Dans la mesure où on peut observer depuis les années 90 une sorte de mélange des genres entre certains groupes je dirais politiques en rébellion contre leur État et les groupes mafieux pour des raisons qui sont liées d'ailleurs à la fin de la guerre froide et sur lesquelles éventuellement je pourrais revenir dans la discussion puisque je vois que je parle depuis longtemps. Je conclurai en disant donc que la globalisation du crime organisé profite de différents processus de globalisation que j'ai évoqués, contribue et renforce ces processus de globalisation. Et puis, sans faire un vilain jeu de mots, eh bien on peut dire aussi que ce crime organisé, c'est un phénomène global qui met en relation sphère économique, sphère politique et évidemment criminelle. Je vous remercie.
Je voudrais savoir comment on peut éviter les collusions préélectorales entre les capitaux privés et les besoins financiers des partis politiques qui sont hors de portée des budgets publics. Et d'autre part, est-il juste que des candidats battus doivent rembourser les subventions qu'ils ont obtenues ?
Je répondrai à la première question, pas à la seconde. Je n'ai pas à me prononcer. Je n'ai pas donné de jugement sur votre seconde question. Sur la première, je dirais que la démocratie a un prix, a un coût, et que c'est justement l'objectif du financement de la vie politique que d'éviter, autant que faire se peut, des phénomènes qui sont peu glorieux. Dans les débats qu'il y a eu sur la légitimité ou non de financer et de rembourser les campagnes électorales, eh bien c'était bien cela qui était en jeu. Et pour ma part, je pense qu'effectivement, pour prévenir et se prémunir de ces dérives, il est nécessaire que la vie politique soit financée. Le problème étant qu'évidemment, les contrôles doivent suivre et les abus ou le dépassement sanctionné.
Dans le cadre de la mise en commun de moyens, de TRACFIN, OLAF, SICFIN, Eurojust, Europol et des différents organismes qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que vous croyez à leur efficacité dans le cadre de l'Europe des 25, premièrement? Et deuxièmement, concernant la cybercriminalité au niveau international, croyez-vous qu'il est grand temps que l'ensemble des pays se mobilisent pour éradiquer l'intrusion? À aujourd'hui, on constate l'intrusion, mais on n'arrive pas à l'éradiquer. Que pensez-vous de cette prise de conscience qui pourrait être immédiate, de se doter des moyens afin d'éradiquer la cybercriminalité?
Bon, il y a de grandes avancées, très certainement, hein, dans la lutte anti-criminalité au niveau européen, il n'y a pas de doute. Hein. Je ne suis pas professionnelle de cette lutte anti-criminalité, mais malgré la succession mesures, de directives, etc., je crois comprendre que ces professionnels, très souvent, continuent de regretter la lenteur, l'extrême lenteur des procédures, et puis, des fois, la mauvaise volonté des États à livrer un certain nombre d'informations. Hein. Cette coopération, elle a des bases juridiques établies, mais maintenant, c'est une culture, en quelque sorte, à la fois une culture politique et une culture professionnelle qu'il s'agit de changer, et ça prendra très certainement encore plus de temps. Sur l'autre question, là encore, oui, les mesures peuvent être nécessaires, et les rencontres également, mais... il faut peut-être distinguer entre des mesures qui sont de l'ordre, en quelque sorte, de la mise sur agenda, de l'ordre de la démonstration qu'on s'intéresse au problème et qu'il s'agit d'un problème qu'il faut combattre, hein, mais la lutte en elle-même me paraît très difficile et aussi porteuse de risques concernant les libertés publiques.
Oui, bonsoir madame. Il y a dans votre exposé, vous ne nous avez pas dit un seul mot.
Est-ce que vous pouvez dire,
vous ne nous avez pas dit un seul mot sur la mafia albanaise. On en parle. L'un de vos collègues, ou du moins je suppose que vous êtes un de vos collègues, en a écrit un livre assez épais. Et vous n'en avez pas du tout parlé, non pas du livre, mais de cette mafia albanaise. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas la première, depuis que l'on suit ces conférences, à nous parler de la fragilité des États. Qu'est-ce que vous entendez par fragilité des États, en définitive, quand on voit que la technostructure se renforce, que malgré tout, avec Internet, on fait maintenant pas mal de choses dans les deux sens, aussi bien au niveau de l'acteur que nous sommes, nous, à titre individuel, qu'au niveau de l'État. Enfin, la troisième, vous avez cité le livre de l'Observatoire. Ce livre, je l'ai vu, en effet, est très bien, mais son gros problème, c'est qu'il est inabordable en prix. Pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une source d'information, c'est vrai, mais inabordable. Or, ce qu'on peut reprocher peut-être, ou est-ce que c'est fait exprès après tout, est-ce qu'on peut dire que vous nous apportez de l'information, quand je dis vous, c'est-à-dire tous ceux qui écrivent ou qui, comme vous, maintenant, venez de parler devant nous, mais compte tenu du fait que nous ne pouvons pas emmagasiner cette base de données de support papier parce qu'il y a un problème de coût, est-ce que toutes ces informations, en définitive, ne se perdent pas?
Alors, bon, plusieurs questions, je vais y répondre dans l'ordre. La mafia albanaise, oui, je n'en ai pas parlé. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, le point de départ, hein, comme je l'ai expliqué, c'était les groupes mafieux. Hein, et le terme mafia connaît un très grand succès, hein, mais du point de vue qui est le mien, du point de vue des sciences sociales, il répond à des critères qui sont précis, et c'est ceux que j'ai évoqués au début de cette conférence. Et de ce point de vue, de ces critères précis, la dite mafia albanaise, d'après les spécialistes que je ne suis pas, n'est pas une mafia au sens strict. Un groupe criminel, bien entendu, mais pas une mafia au sens strict. Si j'en crois mes collègues spécialistes, et c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, mais j'aurais pu effectivement l'évoquer en tant que groupe criminel, et notamment sa contribution forte au trafic de stupéfiants et au trafic des armes. Donc peut-être que ça me permettra de corriger sur la version au papier qui sera peut-être disponible sur Internet.
Non, pas sur Internet, mais en publication, enfin en papier.
Bon, pour répondre, alors, puisque j'en viens à cela, un certain nombre de textes sont consultables sur Internet, donc permettent d'éviter ces problèmes de coûts que vous évoquez et auxquels je suis sensible, parce qu'effectivement, les livres coûtent très cher. La question majeure de la fragilisation de l'État. Bon, la fragilisation de l'État, il faut distinguer, si on parle des États, de nos États occidentaux ou des États du Sud. J'irai plus vite sur les États du Sud, parce que malheureusement, le phénomène est plus évident encore, hein, avec le développement, hein, des conflits, hein, et la difficile ou l'impossible greffe étatique dans un certain nombre de pays du Sud. On assiste dans les pays du Sud, me semble-t-il, hein, à, d'une part, la conséquence, hein, d'un échec qui est l'échec de l'importation du modèle étatique venu du Nord, hein, dans un certain nombre de pays. Et puis, on y assiste également, hein, sur fond, justement, d'absence de légitimité de l'État, hein, et de phénomènes de corruption considérables, hein, au développement des conflits, voilà, pour les pays du Sud. Mais plus globalement, la représentation politique, bon, là aussi, on va dire, c'est un peu une crème, ça devient un peu une tarte à la crème. La représentation politique est en crise. Et l'État est très certainement en déclin, hein, avec le processus de globalisation, hein, tel qu'il se dessine à partir des années 80, qui met en avant l'économique, qui prône des déréglementations, qui prône un déclin des contrôles étatiques, hein, pour laisser le libre jeu au marché. Hein. Et ces recettes qui ont été mises en place par les institutions internationales, mais parce que les États se sont bien voulu se dessaisir, hein, de leurs fonctions économiques, mais aussi quelquefois de solidarité sociale, hein, a des répercussions directes sur la crise de l'État-providence que l'on ressent peut-être particulièrement en France en raison de cette double tradition républicaine et sociale.
Je voulais savoir, dans notre pays, au niveau des banques, il y a des contrôles qui sont faits, des contrôles de surveillance. Or, professionnellement, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, dans le cadre de Société en sommeil, de voir des mouvements de fonds qui sont très très importants, d'argent, quand on demande à la banque qu'est-ce que c'est, on n'a pas de réponse, et l'argent est reprélevé peu de temps après. Également d'autres mouvements avec certains pays qui transitent par la Suisse et qui sont complètement occultes. On est quand même dans un pays où on a quand même des structures par rapport à d'autres pays dont vous avez parlé. Alors je voudrais savoir, si ça vous est possible, pourquoi ce genre de choses et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de contrôle plus rigoureux? C'est comme si, en fait, c'était bien volontaire, un peu ce que vous avez dit à un moment.
Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à rajouter que vous.
Je voudrais tout simplement vous demander une définition de qu'est-ce que c'est le concept duquel vous êtes parti pour une analyse de la criminalité dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour vous le point de départ de qu'est-ce que c'est criminel dans le monde d'aujourd'hui?
Faut-il que je reprenne sur ce que j'ai entendu par groupe criminel et groupe mafieux, parce que j'ai peur de lasser un peu, de lasser l'auditoire. J'ai retenu comme définition, mais qui est la plus simple, hein, pour les groupes criminels, hein, des groupes organisés, hiérarchisés, qui se livrent à des activités illégales.
Oui, bonjour. Pour rebondir peut-être un petit peu sur la personne qui parlait de la Suisse tout à l'heure, moi j'aimerais bien, je suis là, j'aimerais bien apporter une petite pierre modeste dans la modestie de mes connaissances actuelles sur ce qui se passe au Luxembourg et notamment par l'intermédiaire des chambres de compensation internationales en l'occurrence Clearstream et Euroclear. Est-ce que vous auriez des informations complémentaires à nous dire là-dessus ? Parce qu'il y a un travail d'investigation qui est fait par certains journalistes actuellement, et je pense que ça va complètement dans le sens du débat. Et je pense qu'au Luxembourg, des enquêtes ont lieu et la justice n'a pas vraiment envie d'être faite. Donc voilà, c'était juste pour donner l'information qu'il se passe des choses au Luxembourg et qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Voilà.
Bonsoir, je souhaiterais poser une question. Moi, je reste assez pessimiste sur la lutte anti-mafia. Lorsqu'on sait que les moyens financiers et techniques dont dispose la mafia, avec les moyens financiers dont ils disposent, à part les écoutes satellitaires, je crois qu'ils ont accès à tout. À tous les moyens techniques et même toutes les possibilités de conseils financiers via des cabinets d'avocats. N'oublions pas que certains fils de mafieux ont suivi des études financières dans les plus grandes universités américaines, que ce soit Stanford, Harvard ou Yale, ce qui a provoqué d'ailleurs un problème de génération entre l'ancienne génération et ces jeunes qui ont suivi des études dans ces universités. D'autre part, je souhaiterais que vous me disiez pourquoi des personnalités comme Berezovsky, qui coule des jours heureux en Angleterre et qui, dans une place, vous savez, que je pense que vous avez cité quelques paradis fiscaux, mais les deux places financières, je le tiens d'un magistrat spécialisé, les deux places financières qui blanchissent le plus d'argent sont Londres et Tokyo. Donc je souhaiterais savoir comment, par manque d'organisation, entre collaboration entre les polices spécialisées entre pays, des personnages tels que celui-ci puissent couler les jours en Angleterre, quoi, voilà.
Ce n'est mal, enfin oui, il n'est pas le seul d'ailleurs parmi ces personnages douteux à vivre tranquillement. Alors et au vu des polices d'ailleurs. Mais que puis-je vous dire ? Que puis-je vous dire ? Moi aussi, je partage votre pessimisme. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que et ça entraîne ce constat pessimiste. C'est véritablement cette imbrication qu'il y a au niveau économique comme quelquefois malheureusement au niveau politique. Et vous avez raison de dire qu'il y a plein de bonnes volontés dans tous les pays pour lutter contre les mafias, mais que ces bonnes volontés se heurtent au mieux à une insuffisance qui est cruelle de moyens et au pire quelquefois à l'arrêt de leurs investigations parce qu'elles peuvent être gênantes. C'est malheureusement vrai.
Est-ce que les régimes démocratiques dans un tel contexte ne sont pas dépassés ? On peut véritablement se poser la question, quelles capacités ont-ils véritablement ces systèmes démocratiques ? Ils paraissent dérisoires actuellement, ils paraissent dérisoires à lutter contre de tels pouvoirs. Ça, c'était ma première question. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ? Et pourtant, Dieu sait que je crois être une grande démocrate, mais bon. Et le deuxième, vous avez fait continuellement un rapprochement avec ce qui s'est passé au début du 19e siècle et l'évolution de ce pouvoir mafieux par rapport à l'économie générale. Ça aboutit quand même au krach de 29, qui a été une catastrophe mondiale. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à la reproduction de ce phénomène dans quelques années ? Il y a déjà eu la crise asiatique. C'était un tout petit signal d'alarme parce que cette économie parallèle pèse quand même extrêmement lourdement sur l'ensemble de l'économie mondiale. Or, actuellement, rien ne permet de penser qu'on va la maîtriser.
L'instabilité et les risques de crise financière majeure existent, mais je dirais que ce n'est pas la criminalité organisée qui en a la responsabilité première, me semble-t-il, même si elle y contribue, absolument. Et il est absolument évident, mais on l'a vu dans la crise japonaise, dans la crise mexicaine, que l'importance de l'investissement criminel dans l'économie et surtout la spéculation a renforcé ces crises. Donc il y a un phénomène là qui est lié, qui est noué et qui est, je le pense, aussi porteur de risques tout à fait considérables. Maintenant, je ne pense pas que les régimes non démocratiques soient plus performants dans la lutte contre les organisations criminelles. Si elles l'avaient, bien malheureusement, des pays, voire à l'échelle de continents, seraient épargnés par ces phénomènes criminels, ce qui n'est pas le cas, puisqu'un régime non démocratique s'accompagne souvent d'une très forte aussi corruption, voire participation directe de l'État dans ces trafics criminels. Donc je ne pense pas que les régimes non démocratiques soient plus performants, mais au-delà même de la question de la performance, là il y a une question politique, éthique. Faut-il sacrifier effectivement une partie des libertés publiques à la lutte contre la criminalité, sur laquelle j'ai mes idées? Je pense que non. Et je pense que déjà, il y a un certain nombre d'entorses qui sont prises avec le droit pour lutter contre la criminalité organisée, qui peuvent poser problème du point de vue des libertés publiques.
Isabelle Sommier, merci beaucoup.